Le judaïsme est d'abord et avant tout terre à terre et n'est pas mystique. Eh oui. Donc, quand je dis ça et que je rattache ça au fait, je vais dire une chose que je dis tout le temps. Donc, ce n'est pas nouveau. On commence par une introduction très connue. Il n'existe de fête juive que s'il y a eu un événement que nous devons fêter. S'il n'y a pas d'événement, mais que la date est spirituellement chargée en électrons et en photons et en tout ce que vous voulez, ça n'en devient pas une fête. Il faut qu'il y ait un événement qui a touché le peuple juif. Sinon, shum davar klum. D'accord ? Et alors on peut faire des minagim sympathiques, mais ça ne deviendra fête que lorsque il y aura un événement officiel qui aura touché le peuple juif.
J'ai une question, pourquoi Yom Yerushalayim c'est pas considéré comme une fête ?
Comme tu le dis très bien, c'est une fête.
Ah, c'est une fête ?
C'est une fête, bien évidemment. Tu parles férié en termes goy, c'est-à-dire en termes, pourquoi est-ce que c'est pas un jour chômé ? Ou est-ce que tu dis, est-ce que c'est pas Yom Tov ? Alors non, c'est pas pareil. Parce que les fêtes des Rabbanan, les fêtes qui ont été instaurées par les rabbins, ne sont pas des Yom Tov où on n'a pas le droit de travailler ou de faire des choses comme ça. Comme Hanouka, Purim, Yom Ha'atzmaut, Yom Yerushalayim, pareil, c'est pas Yom Tov. Alors pourquoi est-ce que l'État d'Israël n'en a pas décrété un jour chômé comme Yom Ha'atzmaut ? C'est une excellente question, c'est une grande erreur. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui Yom Yerushalayim, bien que ce soit une fête juive, puisque décrétée par le grand rabbinat d'Israël comme étant une fête juive, c'est d'ailleurs un jour où on n'a pas le droit de dire le Tachanoun, c'est un jour où on doit dire le Hallel, c'est un jour où on doit être Sameach. C'est un jour de fête, bien sûr. Ça a été décrété ainsi dans la Halakha. Maintenant, pourquoi est-ce que, à part Jérusalem et à part les gens qui ont des kippot tricotées, personne ne le fête ? Parce que, une des raisons, c'est que l'État d'Israël ne l'a pas véritablement accepté. C'est-à-dire que l'État d'Israël n'a pas encore véritablement réalisé ce que ça voulait dire d'être rentré à Jérusalem.
C'est pas politique,
c'est... Bien sûr que c'est politique, mais ça va ensemble. Pourquoi c'est politique ? Pourquoi est-ce que politiquement... C'est-à-dire que politiquement, on a dit, ça y est...
Vis-à-vis de l'international.
Oui, mais on est à moitié. Parce que politiquement, on a dit que Jérusalem était devenue la capitale une et indivisible. Non, c'est-à-dire qu'on le dit. On le dit aussi à l'international. Israël revendique Jérusalem comme sa capitale aux yeux du monde. Donc, au niveau politique, on a oui accepté ça. Mais le monde du temple est entre nos mains, ça on n'a pas accepté. C'est-à-dire qu'il faut bien se rendre compte, on ne va pas faire un cours sur Jérusalem, mais il faut bien se rendre compte qu'en 67, on peut dégager la WAKF tant qu'on le veut. C'est-à-dire qu'ils n'auraient pas pu rien du tout. Mais cette erreur-là, ce n'est pas que Moshe Dayan tout seul, vous comprenez bien qu'il y a ici la main de Dieu qui est derrière. Am Israël, Kanyere, semble-t-il, n'était pas encore prêt à prendre possession du temple et du Harabaï, du Beth Amikdash. Donc il y a des choses encore à faire, et je suis pour qu'il y ait un député. Pourquoi ne pas proposer ça au Rav Amichai Eliyahu, le député de la tradition juive et de l'héritage, de proposer un projet de loi disant que ça sera férié Yom Yerushalayim. Moi, je suis complètement pour. Il n'empêche qu'il y a un événement qu'on fête à Yom Yerushalayim. Par opposition, il n'y a pas d'événement qu'on fête à Tou Bishvat. Donc Tou Bishvat, c'est sympa, on mange des fruits, il y a plein de choses à dire sur Tou Bishvat, on peut en faire plein des cours de Torah, il y a beaucoup de spiritualité dans cette journée-là, mais celui qui ne fait pas Tou Bishvat, il n'a rien transgressé, ce n'est pas encore officiellement une fête juive. Ok ? Alors, c'est ce que je dis, c'est très connu, hein, je le dis à chaque fête. Donc je repose ma question. Alors qu'est-ce qu'on fête ? À Shavuot, puisqu'il faut fêter un événement. Alors voilà, c'est ça. Le problème, c'est que tout le monde dit le don de la Torah, alors qu'on n'a reçu aucune Torah.
Ah bon ? Et l'étape de la loi, alors ?
Ah, ce n'est pas pareil. Et j'ai envie de te dire, non seulement l'étape de la loi, c'est pas la Torah, en plus, on ne les a pas reçus à Shavuot.
Ah d'accord. On aurait dû les recevoir.
On aurait dû les recevoir.
Non plus ?
Et quand le peuple s'est rassemblé et a entendu la voix de la Kadosh Baruch
Hu, je vous propose... Je vous propose, parce que vous le savez, tout ce que je vais dire maintenant, vous le savez. D'accord, je ne vais absolument pas dire de nouveautés, peut-être à la fin. Mais tout ce que je vais dire en préambule, c'est un grand préambule, vous le savez. Le problème, c'est que je suis obligé de le dire. Pourquoi ? Parce que on a tellement ancré dans nos têtes quelque chose de faux, que même les choses vraies qu'on connaît, elles sont reléguées derrière. Les amis, on arrive au pied du mont Sinaï. C'est marqué dans le chapitre 19 du livre de l'Exode, Shemot, chapitre 19. On nous dit que le premier jour du mois de Sivan, Baou Midbar Sinaï. on est arrivé au Mont Sinaï le premier Sivan, Rosh Chodesh. Ça va ? Ensuite, Dieu, il a voulu commencer à parler au Béné Israël. Moshe lui a dit, temps mort, ils sont fatigués.
Ils ont eu peur.
Hein ?
Ils ont eu peur.
Quoi, ils ont eu peur ?
Le peuple a eu peur.
Pour l'instant, on n'a pas de peur. Pour l'instant, le peuple, il vient de marcher, il a posé la tente. Okay. Viens, on se remet dans le contexte. Le peuple d'Israël vient de sortir d'Égypte. Il a marché depuis 50 jours. Il arrive au pied du Mont Sinaï. Enfin, ça ne fait pas 50 jours, ça fait 45 jours. Il arrive.
C'est quand même tous les jours.
Hein. Oui, bah, j'imagine. Non. D'accord, mais c'est quand même fatigant de se taper, je sais pas combien, 30 km, 40 km. Imagine-toi, avec les enfants qui braillent, avec les troupeaux, avec les tentes, avec tout le pactage.
Surtout qu'ils n'ont pas fait de chemin le plus court.
Hein. Pour l'instant, il n'y a pas de chemin de plus court. Là, on est juste sorti, on a marché. On ne va pas directement passer par Eretz Pelishtim parce que ça va être trop difficile, il y aura des guerres trop vite, on n'est pas prêt. Dans tous les cas, on marche. C'est fatigant. Donc là, on va se poser au pied du Mont Sinaï. D'ailleurs, on va essayer, on va y rester pendant plus d'un an. Donc, on pose des valises. Moshe, il a dit, les gars, on dresse le camp. Mais Moshe, on dresse le camp d'une nuit ou... Non, on reste plus. OK. Donc, on dresse le camp.
On s'installe.
Ça, c'était le premier Sivan. Il y a, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Carrefour, qui est venu s'installer en Israël. Carrefour. Quoi ?
Quel rapport ?
Eh bien, tu vas te dire quel rapport ? Comment il va nous mettre ça dans le cours ? Ben, je vais te dire. Je vais te dire. Bon, d'abord, je ne sais pas si vous avez été. Moi, je n'ai pas été dans le grand encore. Je ne sais pas si c'est une vraie trouvaille. J'en sais rien. Le petit de Batakerev, oui. Ça casse pas trois pattes à un canard, comme on dit chez nous. T'as été ? C'était bien ? Ça vaut le coup ?
Non, non.
Et ça vaut le coup ?
On était à Ramatavi.
Que tu veux acheter.
Aïe, nous.
Uniquement des portes de Carrefour.
On était à Ramatavi.
Et ça vaut le coup ? Bon, écoutez.
En dehors des produits Carrefour, c'est bidon.
C'est bidon. Bon, ben c'est bidon, alors c'est bidon. Voilà, on entendra, c'est bidon. Quoi qu'il en soit, quel rapport avec notre histoire ? Les Français sont fantastiques pour inventer des concepts et qui s'exploiteraient très très bien. Par exemple, le fameux concept de... J'ai un... Non, pas Carrefour, mais le fameux concept de, disons, le jeudi, c'est le 8 mai, c'est un jour férié, le samedi, c'est le week-end, qu'est-ce qu'on fait le vendredi ? On fait le pont. Eh bien, le pont s'est invité dans la halakha. Ah bah oui. Bah oui. Dans la halakha, le premier Sivan, Rosh Chodesh Sivan, on ne dira pas Tachanoun, les supplications. Normal, c'est Rosh Chodesh. Parce que là, tout va bien. Le 3, le 4 et le 5 Sivan, on ne dira pas Tachanoun parce que c'est ce qu'on appelle les 3 jours de préparation que Moshe nous a demandé de nous préparer pour recevoir la Torah. Le 6 Sivan, on ne dira pas Tachanoun parce que c'est le jour Matan Torah. Et le 7, le 8, le 9, le 10, le 11 et le 12, c'est ce qu'on appelle Yemé Atashlumim, c'est des jours où tu peux quand même emmener le korban, le sacrifice de la fête, si tu n'as pas eu le temps de l'amener à Shavuot. Donc c'est un peu des jours de fête, donc on ne dira pas les supplications. Et donc, nous dit la Halakha qu'on ne dira pas Tachanoun du 1er au 12. Sauf que, le 1er, on ne dit pas c'est Rosh Chodesh, le 3, le 4, le 5, on ne dit pas parce que c'est les jours de préparation, le 6, on ne dit pas parce que c'est le don de la Torah, le 7, le 8, le 9, le 10, le 11, le 12, on ne dit pas parce que c'est les jours de rattrapage. Sauf que, le 1er, on ne dit pas parce que c'est Rosh Chodesh, le 3, le 4, le 5, on ne dit pas parce que c'est... Ah, merci ! Et le 2, alors, dans l'histoire ?
On fait le pont
du Tachanoun ! Non, mais c'est vraiment, on fait vraiment... Non, alors on ne fait pas vraiment le pont. Il y a une vraie raison de pourquoi... tu le ressortiras, celui-là. Hein.
Ah, oui.
Maintenant, pourquoi on ne fait pas Tachanoun le 2 Sivan ? Je vous ai dit, on est arrivé le 1er. On est arrivé à Rosh Chodesh. Et là, Dieu, il a voulu déballer tout ce qu'il avait à nous dire. Moshe lui a dit, stop ! Ils sont crevés, regarde-les. Ouais. Tu parleras demain. Et donc, Dieu s'est gardé et il a parlé que le lendemain, donc le 2. Et qu'est-ce qu'il nous a dit ? Ah, c'est le moment officiel, tant attendu, où Dieu va faire son speech et il nous dit clairement, je vous ai choisi comme peuple, vous êtes pour moi Am Segula et vous serez pour moi une nation de prêtres, un peuple saint, un royaume de prêtres, une nation sainte. Ah, c'est le jour où Dieu nous a choisi comme peuple, le 2 Sivan. Ah bah, tu m'étonnes, ça vaut le coup de ne pas faire Tachanoun. Ben, Et puis après, dans cette fameuse journée du 2, Dieu dit à Moshe de dire au Bnei Israël, si vous écoutez ce que je vais dire et que vous gardez mon alliance, alors, Aitem li segula mikol ha'amim. Donc, c'est quoi ce qu'il va nous dire et son alliance? C'est ce qu'on appelle ça la Torah. Dans deux secondes, il va nous donner la Torah. Donc, Dieu dit à Moshe de dire au Bnei Israël que Dieu, il va donner la Torah. Donc, qu'est-ce qu'il fait Moshe?
Il
dit au Bnei Israël, il s'exécute. C'est le 3. Le 3, Moshe dit au Bnei Israël, Tov les amis, Dieu va nous donner la Torah. Eyun echonim lishloshet yamim, préparez-vous. Dieu va nous donner la Torah. Non, c'est pas vrai. En fait, il leur dit la préparation juste après, mais deux secondes. Dieu, Moshe leur dit, voilà ce que Dieu il m'a dit. Réponse des Béné Israël. On veut pas.
On veut pas.
Enfin, mais on veut pas. Les Béné Israël, non, ils disent pas ça. Ils disent, Kol asher diber Hashem naase. Tout ce que Dieu nous dit de faire, on est prêt à faire.
Donc, il veut pas
parce que toi, tu dis.
Voilà.
Eh, c'est quoi cette histoire, la Torah? On n'a jamais entendu parler de ça, nous. On t'a suivi dans le désert. Parce que je te rappelle qu'en Égypte, tu nous as dit, Dieu m'a envoyé, pour quoi faire?
Pour vous.
Sortir d'Égypte et faire quoi? Faire un foot?
Un pays.
Et vous ramener en terre d'Israël. Pourquoi? Parce que c'est la terre que Dieu avait promise à Abraham, Isaac et Jacob. C'est-à-dire que nous savons qu'il nous avons une promesse de ce Dieu dont tu parles, qui a dit à nos ancêtres qu'il nous donnerait la terre d'Israël. Donc tu viens et tu nous dis, Dieu m'a envoyé pour vous sortir d'Égypte, vous amener en terre d'Israël. Ça, on connaît. Cette fois, dans le livre de Bereshit, Dieu a passé une alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Et c'est cette fois, c'était pour quoi faire? Pour lui promettre, aux trois, une descendance et la terre d'Israël. À aucun moment, Dieu n'a parlé de la Torah. C'est quand même quelque chose, 613 mitzvot, à peu près 1 million de halachot. Ça ne se fait pas comme ça. Donc là, tout d'un coup, Moshe, imaginez-vous, on est dans le désert, et Moshe nous dit, bon les gars, Dieu m'a dit que le samedi, on ne peut plus prendre son portable. Et puis il m'a dit aussi que le poulet crème, c'est plus possible. Et puis, il m'a dit aussi que presque 12 à 14 jours par mois, mari et femme, vous ferez lit à part. Et puis, il m'a dit aussi que quand tu plantes un arbre pendant 3 ans, tu ne peux pas manger des fruits. Et puis, il m'a dit aussi... Bon, je ne vais pas vous faire toutes les 613 000 votes.
C'était dur à avaler.
Ben, évidemment.
Oui, c'était dur à avaler.
D'autant plus que juste avant le Mahamad Arsinaï, il y a eu Yitro qui est venu. Qu'est-ce qui nous dit que c'est vraiment Dieu qui t'a dit ça? Peut-être c'est Yitro qui t'a dit ça. Donc nous, on est prêts à te suivre uniquement si ça vient véritablement de Dieu. Dit nos sages, qu'ils ont dit, c'est-à-dire nos sages nous rapportent ce que les Bnei Israël ont dit, « Retsonenu lirot et malkenu ». Nous, on veut voir Dieu. Ça y est, ça suffit. Bon, t'étais sympathique le numéro 2, maintenant on veut voir le numéro 1. Bon. Donc les Bnei Israël ont refusé ce que Moshe a dit. Moshe retourne chez Dieu.
C'est dans le Tanakh.
Tout dans le Tanakh.
C'est pas dans le Midrash.
Non, même pas dans le Midrash.
C'est pas dans le texte.
Pardon ? Tu m'accuses de mentir de manière éhontée. Donnez-moi un humache. Non, il y en a là. Comme ça, tu gardes le tien et moi, je prends l'autre. Non, comme ça, je te confronte en public. Je te confronte en public.
Dans quoi ? Dans Shemot ?
Dans Shemot, chapitre 19. Oui, oui, bah, j'y vais, j'y suis. Iné, iné.
Est-ce qu'on peut le lire ?
Oui, iné, j'y viens. Donc, le chapitre de tête, verset Aleph. Bachodesh ha-shelishi letzet b'nei Israël me'eretz Mitzrayim b'yom hazeh ba'u midbar Sinai. Donc, premier Sivan, on est arrivé au Har-Sinai. Va'yisou mirefidim va'avou midbar Sinai va'yichanu ba'midbar va'yichan sham Israël neged ha'har.
Première question.
Oui.
On n'a pas le même texte.
D'où ça sort qu'ils sont restés un an là-bas?
Non, non, ça ne sort pas d'ici. Je le sais parce que j'ai lu aussi le livre de Vayikra.
Il
y a un truc.
Non, c'est quand tu vois la fin du livre de Vayikra, mais...
Claudine, il y a un truc qui me turlupine.
Non, mais c'est
là.
Pas marqué.
C'est non, non, c'est pas marqué là, mais d'accord, mais la Torah, elle continue.
Il y a un truc qui me gêne un peu, parce qu'ils arrivent au Midbar Sinai, c'est le désert.
Oui.
Et après, tu parles de montagne.
Bah, C'est Nakhon. Il y a un désert. Et dans le désert, il y a une montagne prééminente. Elle s'appelle Har Sinai. Ma baïa.
Oui, oui, c'est
ça. Non, mais parce qu'il parle d'abord.
Mais oui. Si c'est Santa Catarina.
Oui, oui, oui. On peut y aller difficilement, mais on peut y aller.
C'est Santa Catherine. Si c'est Santa Catherine. Quoi, si le Mont Sinaï, c'est bel et bien Santa Catarina.
Peut-être.
Bah, voilà, c'est pas du tout sûr.
Ouais, peut-être.
C'est bon. Mais bon, l'homme chané, il peut y avoir une montagne dans le désert, c'est un coltan. Donc, Vayachan Sham Israël, Neged Har, c'est là que Rashi va dire son fameux Keish Echad, Belev Echad, on est ensemble, on est. Voilà, il y a marqué au plus singulier. Vayachan Sham Israël, comme un seul peuple. Ou Moshe Allah El Elohim. Moshe est monté spirituellement chez Dieu. Vaikra elav Hashem minahar. Dieu l'a appelé depuis la montagne. Les morts. Kotomar levet Yaakov. Vetaged livne Israël. C'est ainsi que tu diras aux femmes d'Israël.
Quoi, les femmes? On parle pas de femmes.
Bet Yaakov, Rashi nous dit, c'est les femmes.
Ah, d'accord.
Ok? Et elles, les femmes, devront après enseigner à leur mari.
Comme d'habitude.
Comme d'habitude. Atem reitem asher asiti le Mitzrayim. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte. Va et ça être malkan fenesharim et je vous ai mis dans des ailes d'aigle. Va avi et remela et je vous ai ramené vers moi. Va ata et maintenant. Im shamoa tishmeu bekoli. Si vous écoutez ma voix ou shmartem et beriti, vous ferez respecter mon alliance. Donc on a dit ça c'est la Torah. Va itemli segula mikol haamim ki li kol haaretz. Vous serez pour moi une segula parmi tous les peuples, car la terre est à moi. Va'atem ti'uli mamlechet kohanim ve'goy kadosh. Vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. Elle est adevarim asher tedaber el bnei Israël. Voilà ce que tu dois dire au bnei Israël. D'accord? Va'yavo Moshe va'yikra lezikne ha'am. Moshe a appelé les dirigeants du peuple, parce que bon, tu vas pas parler à 3 millions de personnes en un coup. Va'yasem lifneem et kol adevarim ha'ele asher tivahu Hashem. Donc il a tout répété ce que Dieu l'avait dit. Vayanu kol ha'am yachdav, c'est plus que les skedim. L'info, elle a fuité. Et tout le peuple s'est réuni et vient voir Moshe. Et lui disent, vayemru, kol asher diber Hashem naase. Tout ce que Dieu nous dit, on est prêt à faire. Parce que toi, tu dis. Vayashev Moshe divrei ha'am el Hashem. Donc Moshe, il est parti dire à Dieu, bon, bah, ils veulent pas, ils veulent toi.
Kol
Hashem diber Hashem naase.
Mais c'est Moshe, il est quoi, un transmetteur? Il est pas.
Ben, on veut plus que tu sois toi le transmetteur. C'est pour ça que je t'ai amené ce que disent nos sages. Retsonen ou lirotet malken. Chutzmise, j'ai aussi un autre argument, c'est la réponse de Dieu. Et la réponse de Dieu va authentifier que ma vision de la chose est la bonne. Enfin, c'est pas la mienne, celle de nos sages. Non, non, mais regarde.
Le peuple dit tout ce que Dieu nous dit.
Dieu nous dit, on est prêt à faire.
On va le faire, mais il n'a pas dit, c'est pas dit. Que tout ce que toi tu nous dis.
Nahol, vous avez raison. Mais vous avez raison, mais vous avez raison, mais je dis que c'est ça que la Torah veut dire à cause du verset qui suit. Parce que la réponse de Dieu va authentifier ce qu'on a dit. Et qu'est-ce qu'il dit? Vayomer Hashem el Moshe. Ine, anochi ba elecha be'ave anan. Ok, je viens vers toi dans la nuée protectrice. Ba'avur yishma am bedabri imar vegam bechaya minu leolam. Donc c'est bien ça le problème. Il dit ok, donc je viens, je vais parler et tout le monde va entendre que quoi, que je te parle comme
que
ça,
je parle.
Que je te parle, c'est-à-dire qu'ils vont tous entendre ce que je te dis comme ça. Eh bien le fait que tu es mon envoyé sera authentifié aux yeux de tout le, enfin aux oreilles surtout de tout le monde. Ok. Et donc finalement, Vayaged Moshe divrei ha'am el Hashem.
Dieu a parlé. Et
qu'est-ce qu'il a dit à Dieu?
Ils ont entendu.
Quoi?
Qu'est-ce qu'il a dit à Dieu?
Vayaged Moshe et divrei ha'am el Hashem. Qu'ils sont prêts à écouter tout ce qu'il va lui dire.
C'est très.
C'est ce qu'ils ont dit. Kol asher diber Hashem. Oui.
C'est trop humain, ça.
Quoi? Quel problème?
De dire que Dieu a parlé et tout le monde a écouté.
Ben quoi?
Ils n'ont pas écouté.
C'est ce qui va se passer au Mahamad Arsinaï, non?
Ça semble un peu bizarre.
Bah, c'est quoi la névoie? C'est quand Dieu il parle, on écoute.
La névoie, c'est pas forcément le son.
Bah, comment ça? Alors comment on entend?
On entend.
On entend?
Avec son esprit.
Ah, est-ce que c'est un décibel qu'on peut entendre si on met un appareil, si je mets un enregistreur, est-ce qu'on l'entend ou est-ce que c'est intérieur? Je ne peux pas te dire.
Alors,
mais ça, je ne sais pas.
Un ensemble qui a saisi.
Oui, peut-être que, encore une fois, la névoie, est-ce que c'est quelque chose qui s'entend de l'extérieur ou pas? Je ne sais pas, je ne peux pas te dire, je n'ai jamais été prophète. Mais l'un dans l'autre, c'est pareil. C'est-à-dire, au final, tu as reçu la parole divine. Ok? Donc finalement.
Mais non, c'est pas pareil.
Quoi? Non, mais c'est l'Ochashuv en fait. C'est pas important. Tu as raison, c'est pas pareil, mais je veux dire, c'est pas important de savoir est-ce que c'est quelque chose que tu peux entendre dans l'air ou est-ce que c'est quelque chose que tu entends intérieurement. Je sais pas vraiment ce que ça veut dire.
Si tous ont entendu intérieurement en même temps, c'est quelque chose.
Oui, enfin bon, s'il y a quelqu'un qui donne une voix du ciel, que tout le monde, c'est pas quelque chose aussi. C'est-à-dire, qui tourne la névoie, c'est Gadol, quoi qu'il arrive. Je ne peux pas vous dire exactement comment c'est, parce que...
Les Nevi'im, on les a tous entendus.
Non. Toi, tu as entendu les Nevi'im, tu as entendu Moshe.
Oui.
Parce que c'est des hommes, ils parlent à des hommes. Ça. Mais oui. Comment Dieu a parlé aux Nevi'im, ça, tu ne sais pas.
Non. Bien on ne sait pas, non.
Il y avait, ben, c'est ça qu'on après, dit. Est-ce que Dieu, quand il va nous parler à tous, qu'on va tous devenir Navi...
On utilise le même mot.
Oui, c'est tout. Mais tu as raison, je ne sais pas exactement. Est-ce que c'est une expérience auditive qui est enregistrable, matérielle, ou est-ce que c'est une expérience auditive profonde, j'en sais rien.
Ça arrive.
Oui, je sais pas, je peux pas te dire.
J'ai l'impression qu'il n'est pas dans un moment où,
où il y a une expérience.
Voilà.
Voilà, c'est un autre.
Il y a un moment après où le peuple entend.
Oui, bah c'est maintenant, c'est ça.
C'est maintenant.
Ok. Mais juste, donc on a dit, si le peuple a dit, je suis pas prêt à accepter Moshe comme simple intermédiaire. Je veux entendre Dieu. Maintenant, on pourrait poser une question. Qu'est-ce qui se serait passé si on avait été des bons religieux et que notre rave vient et nous dit « Voilà, Dieu, il m'a dit 1, 2, 3, 4, 5. » Si on avait été des bons religieux, qu'est-ce qu'on aurait fait?
On fait tout de suite.
Bah, on aurait dit « Ok, très bien, Kol HaKavod. »
Mais et... non, on ne fait pas.
Quoi? Mais bon, on bah, je dis « Si. » Si on avait
on
été des bons religieux.
Sur le
« Si. » Si on avait été des bons religieux, qu'est-ce qui ne se serait pas passé?
On n'aurait pas demandé d'entendre la voix directe.
Et donc, il n'y aurait pas eu le dévoilement au Mont Sinaï.
Ah oui.
Or, je vous rappelle que toute la foi, la émouna du peuple juif dépend du fait qu'on a entendu Dieu au Mont Sinaï. C'est-à-dire que là, les Bnei Israël sont en train de dresser, de mettre en place les bases mêmes du judaïsme. Qu'est-ce qu'on fait à Shavuot? Eh bien, on ne fête pas le don de la Torah, parce qu'on a reçu la Torah beaucoup plus tard.
On a entendu la parole de Dieu,
c'est ça qu'on fait. On fête à Shavuot le dévoilement de Dieu au peuple juif. Il n'y a pas de plus grande raison de faire une fête, en vrai. C'est un événement absolument incroyable.
Qui n'existe nulle part ailleurs.
Qui n'existe nulle part ailleurs et qui n'a pas encore réexisté depuis. C'est-à-dire, s'il y a bien un événement qui mérite une fête, c'est celui-là. Mais ce n'est pas le don de la Torah. C'est vrai que dans la tefila on dit Zematan Toratenu.
Ben oui.
Nachon. Mais ça, c'est une image pour dire que ça a commencé à ce moment-là. Mais ce n'est pas le don de la Torah. Puisque à ce moment-là, Dieu a parlé. Combien il a dit?
10
commandements. 10 paroles. C'est-à-dire 10 paroles. Est-ce qu'on les a tous entendus?
Il ne les a pas dit à ce moment-là.
Non,
c'est pas à ce moment-là. Non, ben là, il dit ok, donc maintenant préparez-vous. Dans 3 jours, j'arrive.
Ah,
ok, dans 3 jours, il arrive. Il va dire les 10 commandements. Est-ce qu'on a Bichlal entendu les 10? La majorité des commentateurs vont dire que non. Qu'on a entendu Marloquet soit le premier, soit les deux premiers.
Ouais,
et qu'après, on a dit c'est trop dur. Moshe, ouais, vas-y, c'est bon, on a compris. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que qu'est-ce qu'on a reçu? 2 commandements. 10? Tu vas me dire, oui, mais dans les 10 commandements, on peut retrouver toute la Torah. Mais c'est d'air, mais c'est l'osé. Et après, Moshe, il part 40 jours, 40 nuits. Et il revient 40 jours, 40 nuits plus tard avec les premières tables de la loi. Il a fait meurtre, sauf que...
Il est en retard.
Non, il va en retard tout de suite.
Ils ont trouvé
c'est quoi le yek ici?
Non, c'est vrai, il est en retard.
Non, le peuple a trouvé que c'était trop long.
Ils ont mal compté.
Ils ont mal compté, il est en retard. Tu vois, il est jamais content.
Pourquoi? Ils ont dit qu'il a dit qu'il allait venir après 40 jours?
Ouais.
Ah, d'accord.
Mais ils ont mal compté, il était en retard. Boshesh, Moshe, Bashesh, Basha, Shishit, il n'est toujours pas venu. Au final, ils ont fait quoi?
Le
veau d'or. Donc Moshe, il arrive, il voit le veau d'or, boum, trach, cassé. Cassé, impuneptable. Donc, on n'a pas reçu. Résultat, il prie maintenant, encore une fois, pour demander pardon pour le peuple juif 40 jours, 40 nuits. Et à Rosh Chodesh et Loul, oui, et à Rosh Chodesh et Loul, il remonte 40 jours, 40 nuits, troisième fois, et il redescend à Yom Kippour, le 10 Tishrei, avec les deuxièmes tables de la loi et la Torah. Donc, quand est-ce qu'on a reçu la Torah? À Yom Kippour. Donc, on n'a pas reçu la Torah à Shavuot. D'accord? À Shavuot, on fête quelque chose d'autre.
Il y a eu un dévoilement.
Exactement. À Shavuot, on fête le fait que Dieu nous a dit coucou.
Il nous a parlé.
Bah, c'est énorme.
C'est énorme.
Ok, c'est énorme. C'est la meilleure raison de faire une fête. Dieu nous a dit, salut, comment ça va ? C'est fou.
Ça serait bien qu'il nous reparle maintenant.
Nara ? Nara ? Maintenant, ok. Donc, tout le programme de Shavuot, c'est d'être capable d'avoir un dévoilement de Dieu. C'est ça, Shavuot, en fait. C'est ça qui a lancé le début de la fête. Et c'est ça qu'on espère chaque fête. D'ailleurs, je vous rappelle que Dieu avait créé le monde en combien de paroles ?
6 jours.
6 jours, mais en combien de paroles ? En 10 paroles, également. Nous dit la Mishnah, dans Maseret Avot, « Be'asara ma'amarot nivra ha'olam ». En 10 ma'amarot, 10 paroles, Dieu a créé le monde. Ok ? Parce que là, vous me suivez ? Ça va être complexe. D'où on sait que c'est 10 paroles, parce qu'il y a marqué 10 fois, « Vayomer Elohim, Vayomer Elohim, Vayomer ». Donc, Vayomer, Ma'amar. Ok ? Il a dit, Amar, les morts. Mais ces 10 paroles par lesquelles Dieu a créé le monde, est-ce qu'elles dévoilent le Créateur ou est-ce qu'elles le cachent ? Bah, le monde que Dieu a créé, nous le dévoile ou nous le cache ?
Il dévoile.
Ah bon ? Toi, tu te balades dehors et tu vois Dieu ?
Non.
Alors que quand tu étais une Neshama, mais quand tu étais une Neshama, tu voyais Dieu ?
Peut-être.
Ben, c'est sûr. Notre monde, les amis, cette table, les fenêtres, la rue, le soleil, tout ça, ça masque Dieu. C'est un écran. La nature que Dieu a créée, c'est un écran. Le monde qu'il a créé nous empêche de le voir.
C'est pour ça qu'on est dans le désert.
C'est pour ça qu'on est dans le désert. Et peut-être que c'est bien comme ça aussi. Mais le fait est que le monde que Dieu a créé le masque. Ah, si le masque a été mis en place par 10 paroles, combien ? C'est les 10 fois dans la Torah au début de Bereshit où il y a marqué « Et Dieu a dit, tac, tac, tac. Et Dieu a dit, tac, tac, tac. »
D'accord.
Ok ? Mais si tu veux aller plus en profondeur, je t'invite à venir à mon cours de demain soir à 23h15 où on parlera de ça.
Je serai sûrement pas en forme après avoir reçu 11 personnes.
Moi, j'en ai 30.
Ça, c'est pas grave. Mais c'est quoi le rapport alors avec le fromage ?
Oula ! Alors là, tu viens sur le fromage. Alors, je veux pas.
Que c'est une très bonne question.
C'est une très bonne question.
La Torah, c'est du lait.
Alors, c'est une très bonne question. Le titre. Le titre de mon cours à 23h15 demain soir. Attends, le titre de mon cours de demain soir, c'est le lait, le beurre et la viande. Oui, c'est ça le titre du cours. Tu veux en savoir plus ? Je t'invite à venir à 23h15 demain soir. Et tu veux que je te dise, il sera même pas enregistré.
Alors, vous nous raconterez.
Voilà, vous n'avez plus le choix. Maintenant, bon, mais peut-être qu'on en dira un petit mot quand même. Quoi qu'il en soit, 2 secondes. Dieu a créé donc le monde en 10 paroles et ces 10 paroles, le masque. Maintenant, si ce masque, il a mis 10 paroles pour être mis en place, combien de trous il faut percer pour dévoiler Dieu ? Bah, 10.
10 aussi.
Donc, quand est-ce qu'il se dévoile ? Par les 10
dibrot.
Ok ? C'est la tête dibrot. Les 10 ma'amarot le cache, les 10 dibrot le dévoile. Ah ah ! Donc, vous comprenez maintenant ce que dit la Gemara lorsqu'elle dit Kol ha'omer davar b'shem omro mevi geoula la'olam. Littéralement, cette phrase, elle dit tout celui qui rapporte ses sources amène la geoula dans le monde. C'est-à-dire, tout celui qui dit quelque chose au nom de celui qui l'a dit amène la geoula. Alors, c'est sûr que le plagiat, c'est pas bien. Mais de là à dire que parce que tu cites tes sources, t'amènes la geoula, c'est peut-être un petit peu exagéré. Mais en fait, c'est pas ça que ça veut dire. Kol ha'omer davar. Ça marche pas. Normalement, on aurait dû dire Kol ha'omer amira. Amira, c'est une parole, mais avec le verbe les morts. Il y a 2 verbes. Il y a les morts et les daber. C'est vrai que les deux, on dit en français parler. Oui. Mais l'un, c'est une parole plus douce. Il y a, voilà, on va dire dire et parler. Donc, quand tu dis à Omer, c'est dire. Donc, tu aurais dû dire à Omer, le nom c'est Amira. Mais là, tu as dit à Omer, Davar. Ça ne marche pas, tu aurais dû dire à Medaber, Davar. Ok ? Donc là, on te dit « Kola Omer Davar », ça veut dire tout celui qui transforme le Omer, le Ma'amar, en Dibour, en Diber, à Sarah Ma'amarot, ça va être à Dibrot. Donc tout celui qui est capable de passer de ce qui cache Dieu à ce qui dévoile Dieu, mais Vigé, oulala, oulala. C'est ça le but. D'accord ? Donc en fait, les 10 commandements sont là pour permettre à Dieu de se dévoiler dans le monde. Oh oh. Alors il s'était dévoilé juste avant. Mais pas à nous. Il s'était dévoilé, pas, alors oui, à Moshe, t'as raison, mais en termes d'entité collective, il s'est dévoilé aux Égyptiens. Par l'intermédiaire des 10 plaies. Eh oui, mais le problème, c'est que les 10 plaies, ils ne sont plus là pour les raconter.
Les goyim, ils croient ça ?
Quoi ?
Les goyim, aux 10 commandements, là. Les goyim.
Quel goyim ?
Ça dépend.
Les chrétiens, ils y croient.
Les
chrétiens, ils croient à la Torah. Les musulmans, ils disent que les 10 commandements, c'est pas à nous qu'il les a donnés.
C'est à eux. Comme le sacrifice de
Ishmaël, bien sûr. Bekitzur, donc les 10 commandements sont là pour permettre à Dieu de se dévoiler. Mais à qui ? À nous. Sauf que les 10 commandements, en fait, on pourrait les séparer en 1 et 9. Parce qu'on a dit, à quoi ils servent techniquement d'après la Torah, ces 10 commandements ? Ils servent à authentifier que Moshe est bel et bien l'envoyé de Dieu. C'est ça que les Bnei Israël ont demandé. Et donc, le premier des 10 commandements, il dit quoi ? Anochi Hashem Elohecha, Asher Otzeticha Me'eretz Mitzrayim. Vous avez accepté Moshe comme étant celui qui vous sort d'Égypte. Ça, vous n'aviez pas de problème, parce que c'est quelque chose que vous connaissiez, qui vous parle. Donc sachez que moi qui vous ai sorti d'Égypte par l'intermédiaire de Moshe, c'est moi qui donne aussi la Torah par l'intermédiaire de Moshe. Donc le premier des 10 commandements, et on l'a tous entendu, donc ça vient authentifier Moshe. A priori, c'est bon, on peut faire les valises et rentrer à la maison. Pourquoi on a besoin des 9 autres ? À part le fait qu'on a dit qu'il fallait 10 pour faire référence aux 10 premières. Les 9 autres commandements, j'aimerais qu'on les divise, mais pas comme dans le film. Dans le film, il y a 5 et 5. Ouais. Deux tables, 5 et 5. C'est pas que dans le film, c'est pour de vrai. Mais j'aimerais qu'on les divise autrement.
En 4 et 6.
Non.
En 2.
Et on, c'est pas pyramide. cornichon.
1 et 9.
1 et 9. Alors oui, 1 et 9, mais les 9, je vais les diviser en 3, 3 et 3. Pourquoi ? Parce qu'on parle ici de ma relation avec Dieu. Or, ma relation avec Dieu, les amis, elle passe par 3 dimensions. Ma relation à Dieu, ma relation avec l'autre et ma relation avec moi-même. Pourquoi ? Eh bien, parce que le verset nous a dit « Ve'ahavta le'reacha » tu aimeras ton prochain, c'est l'autre, « Kamocha » comme toi-même, « Ani Hashem » je suis Dieu. D'accord ? Donc j'ai 3 éléments qui me permettent d'avoir ma relation avec Dieu. Mon rapport à Dieu, mon rapport à l'autre, mon rapport à moi-même. Eh bien, ça tombe bien, parce qu'il y a 3 personnes à ce moment-là des événements, qui prétendent chacun pouvoir remplacer Moshe, pouvoir remplir le rôle de Moshe. Et il faut maintenant qu'on vérifie pas que Moshe, c'est bien et bien lui qui a été choisi, mais pourquoi c'est lui qui a été choisi. Les 3 personnages qui prétendent pouvoir remplir le rôle de Moshe, le premier d'entre eux, c'est Bilam. Et oui, parce que Bilam, on nous dit de lui, c'est non seulement un prophète, mais rappelez-vous le dernier verset de la Torah, on nous dit, l'avant-dernier verset, « Velokam navi od ke Moshe. Velokam navi od be Israël ke Moshe. » Le Talmud, il dit, oui, « Be Israël lokam, aval ba goyim kam. » Il s'appelle pour lui Bilam. C'est-à-dire, Bilam et Moshe, c'est la même catégorie. Incroyable. Pourtant, c'était un pourri, Bilam. Ouais, bah, il est parti en cacahuète après, mais c'était un grand. Et Bilam, dans la prophétie de Bilam, qu'on voit dans la paracha de Balak, eh bien, on nous dit que Bilam ou Yodea Da'at Elion, qu'il est capable de connaître véritablement Dieu. Bilam est un spécialiste de Ben Adam, Lamakom. Yitro, quant à lui, on le connaît. C'est le rave de Moshe. C'est aussi son beau-père. Et c'est surtout celui qui vient voir Moshe et qui lui dit « c'est pas bien ce que tu fais là. Tu peux pas gérer le peuple comme ça tout seul, machin, c'est pas possible. Faut que tu mettes en place des tribunaux, faut que tu mettes en place une structure hiérarchique, faut que tu mettes en place une administration, c'est pas possible. Yitro est un spécialiste de Ben Adam Lachavero. Yov, oh là là, le livre de Job, c'est un grand requiem pour ma relation avec moi-même.
C'est à la même époque.
Tu ne crois pas si bien dire. Yov, c'est Ben Adam Lasmo. Yov, c'est le Gilgul de Kierkegaard. C'est la philosophie du moi-même. Ça a l'air. Alors, est-ce que c'est à la même époque?
C'est qu'il est en relation avec les Égyptiens.
Le Midrash, ce fameux Midrash, va nous dire quelque chose de très intéressant. Tu te rappelles, Moshe, il a été sauvé des eaux, nanana, nanana. Et Bithiel l'emmène à Pharaon et tout va bien. Et puis un jour, le Midrash nous raconte que Moshe joue avec la couronne de Pharaon, tu te rappelles? Et à ce moment-là, Pharaon ne sait pas comment réagir. Est-ce que ça veut dire qu'il veut prendre ma place? Et il fait appel à ses trois conseillers, ouais, qui ne sont autres que Bilam, Yitro et Yov.
Ah, d'accord.
C'est-à-dire que ces trois personnages, dès le début, sont liés à Moshe. Bilam va dire, il faut s'en débarrasser. Yitro va dire, mais non, c'est qu'un bébé. Et Yov, il va dire, je me tais. Donc Bilam, parce qu'il a mal parlé, il va s'en prendre plein la tête. Yitro, il va recevoir plein de trucs. Et l'autre, il n'a pas parlé, tu vas souffrir. Ça ? Mais attendez. Oui ?
On ne parle pas de Yov dans le Tanakh.
Ah, d'abord, dans le Tanakh, il y a tout un livre qui lui est consacré. Dans la Torah. Dans la Torah, on parle de lui sans le citer. Puisque Moshe, lorsqu'il envoie les explorateurs, il demande aux explorateurs, il leur demande tout un rapport. Et dans le rapport, il y a un truc qui est bizarre. Il leur dit, dites-moi, Aïm Yesh Ba Et Im Aïn. Est-ce qu'il y a un arbre? C'est quoi? Est-ce qu'il y a un arbre? Peut-être, est-ce qu'il y a des forêts? Est-ce qu'il y a des... Non, il demande que les explorateurs lui disent, est-ce qu'en Israël, il y a un arbre? Un arbre?
Quel arbre?
Non, mais c'est sûr qu'il y a des arbres.
Oui.
Ils le voient. Et je te rappelle qu'ils sont de l'autre côté du Jourdain. Ils voient bien qu'il y a des arbres de l'autre côté. Et la Rashi nous dit, non, Aïm Yesh Tzadik Ba Et. Qui les protège comme l'arbre protège du soleil. Tov, et de quel tzadik on parle? Yov. Et c'est pour ça que finalement les explorateurs sont partis et ils disent c'est une terre qui avale ses habitants. Pourquoi? Parce que quand ils sont arrivés, pendant les 40 jours où ils sont arrivés, il y a eu des funérailles nationales, nous dit Rashi. C'était les funérailles de Yov. C'est-à-dire, alors effectivement, c'est pas marqué son nom directement, mais tu fais un croisement et on y arrive. C'est-à-dire. Donc, les amis, de quoi on est en train de parler? Yov, Ben Adam Latzmo, Yitro, Ben Adam Lachavero, et Bilam, Ben Adam Lamakom. Bon, ben, c'est bon. Alors, on a besoin que de trois commandements, on n'a pas besoin de neuf. Non, parce que dans chacun, il y a un peu des autres. Le deuxième des 10 commandements, la première triplette, c'est quoi? C'est tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain, et Shabbat. Ok? Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, c'est ma relation avec Dieu au top niveau. C'est Dieu de chez Dieu. Mais tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Qui c'est qui prononce? C'est moi. C'est ma relation avec moi-même dans le contexte de ma relation avec Dieu. Et puis Shabbat, qui doit se reposer Shabbat? Moi, mais aussi mon prochain, mes serviteurs, mes animaux. Donc c'est Ben Adam la Chavero, c'est-à-dire... Respect des parents. Non, Shabbat, on a dit, c'est Ben Adam Lachavero par rapport à Dieu. Parce que pourquoi tu fais se reposer ton prochain par rapport à Dieu. Oui. Ensuite, on a le respect des parents, tu ne tueras pas et...
Tu ne voleras pas.
Ah, vous êtes sûr?
Non.
On bug sur le 6, sur le 7e. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Torah? Parce qu'on va demander à la
tu
Torah.
Tu ne tueras pas, c'est sûr.
Tu ne tueras pas, c'est sûr. Nachon, c'est le 6e. Et ensuite, lotinaf.
Alors c'est quoi ça? C'est pas volé?
Tu coucheras pas avec une femme mariée.
C'est pas
plus loin. Non. Je suis désolé. Le tu ne voleras pas, c'est celui d'après.
Ah d'accord.
Ok. Il arrive quelque part. C'est ça. Donc on a, c'est le respect des parents. Tu ne tueras pas et pas d'adultère. Là, on est dans la deuxième catégorie, la deuxième triplette qui est Ben Adam Lachavero. Maintenant, Ben Adam Lachavero, c'est le grand contexte, mais on a dit il y a les trois dedans. Donc, le respect des parents, évidemment, mes parents, c'est mes prochains, les premiers prochains que je rencontre. Hein, c'est mes parents. Seulement, qui m'a mis au monde ? Papa, maman, et aussi
Dieu.
Dieu. Donc, le respect des parents, c'est Dieu dans le contexte de mon prochain. Ensuite, il y a « tu ne tueras pas ». Bon, ben, quand je tue quelqu'un, c'est évidemment par rapport à mon prochain. Ouais, mais qui devient un meurtrier ? Qui s'est pourri ?
C'est moi.
Donc, c'est « ben adam le atzmo » par rapport au contexte de « chavero ». Lotinaf, j'ai couché avec une femme mariée. Évidemment que j'ai porté atteinte à mon prochain, il n'a pas marié, mais j'ai porté aussi atteinte à qui ? Son mari. Donc c'est maman, chavero, chebe chavero. Ok ? Donc c'est la deuxième triplette, chavero. Et la troisième triplette, c'est quoi ? Lotignov, tu ne voleras pas. Lotane bereacha et chaker, tu ne mentiras pas quand tu fais un faux témoignage. Et tu ne convoiteras pas. Eh bien ça, la dernière triplette, c'est Ben Adam le Atzmo. Mais comment ça ? Quand je vole, c'est dans le grand contexte de envers moi-même, c'est Dieu envers moi-même. Pourquoi ? Il y a une différence dans la halakha entre l'ignov et l'igzol. Mais c'est gezel et gneva. Gezel, c'est en public. Okay, quand je vole un truc en public, ça s'appelle gezel.
Tu veux dire devant tout le monde ?
Devant tout le monde. Non. Quoi ? En public ? J'ai peur de personne. Gneva, c'est je me cache des hommes. Genre, je fais ça en secret. Ah, tu crois que tu peux voler Dieu ? Tu crois que lui, il ne voit pas ? C'est-à-dire ? T'as gonev da, t'as makom ? Donc, l'otignov, c'est moi qui vole. Mais c'est donc dans le critère, ben adam l'atzmo, mais c'est Dieu à l'intérieur de moi-même. Ensuite, il y a, tu ne feras pas de faux témoignages. C'est au tribunal. C'est par rapport à mon prochain. Je suis en train de lui porter atteinte. Mais c'est moi qui suis en train de mentir. Donc, c'est mon prochain par rapport à moi-même. Et enfin, l'otachmod. L'otachmod, tu ne convoiteras pas ni la femme de, ton prochain, ni sa voiture, ni ce machin. Eh bien, ça, c'est quoi ? La chamida, ça se passe dans son cœur. Il n'a encore rien dit, il n'a encore rien fait.
C'est
l'envie. Donc, c'est moi par rapport à moi-même. Ça, donc, vous avez les 10 commandements qui sont en fait le premier pour authentifier Moshe et les 9 autres pour dire pourquoi Moshe. Pourquoi Moshe n'est pas Bilam ? Pourquoi Moshe n'est pas Yitro ? Pourquoi Moshe n'est pas Yov ? Parce que chacun des trois, il est spécialiste dans un truc. Mais pour pouvoir donner la Torah, il faut les 3 choses. Et c'est pour ça que la Gemara va nous dire que Moshe, il a écrit 3 livres dans sa vie. Il a écrit la paracha de Bilam, ce qui nous dit qu'il est capable d'être Bilam. Il a écrit le livre de Yov, donc il est capable d'être Yov. Et il a écrit la paracha de Vayi Binso à Aaron, qui est la paracha dans laquelle Yitro décide de refuser l'invitation de Moshe à rester avec nous et il rentre chez lui. Donc il devient Yitro à la place de Yitro. De Yitro. Il prend le boulot de Yitro. En d'autres termes, Moshe est capable d'être et Bilam, et Yitro, et Yov. Il est la triplette. Donc ça ne peut passer que par lui. Mais c'est dingue. Bon, maintenant qu'on sait ça, il reste quand même la question du lait. Pourquoi est-ce qu'on mange du lait à Shavuot ? Il y a une bonne raison. Il n'y a pas de lait chez vous ? Aïe, 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 aïe. Non, mais attention. Lait ne veut pas dire qu'il n'y a pas de viande après.
Il y a de la viande, bien sûr.
Après, il y a de la viande.
Il n'y a que de la viande.
Ah bah, ça, c'est un problème.
Il n'y a pas de poisson, il n'y a pas de
faut, d'œuf. Faut que tu viennes à mon cours. Faut vraiment que tu viennes à mon cours. Sinon, ça va pas aller du tout. Ah, c'est un vrai problème. Maintenant, il y a des
mais
bonnes raisons.
Demain, oui, mais chez moi, demain soir, il
n'y
a pas de...
Aïe. Dieu nous protège.
Il y a de la Pkeïla.
Bah, c'est très bien, la Pkeïla. Mais on fait un petit apéritif laitage. Alors, pourquoi est-ce qu'on mange des produits laitiers ? Il y a des bonnes raisons et des mauvaises raisons. Toutes sont amenées par des commentateurs, mais il y en a qui sont bonnes, il y en a qui sont vraiment...
Tirées
par la langue, tirées par les cheveux, par l'oreille, par ce que tu veux. Il y a une raison toute simple qui dit que le livre de Tehilim, il nous compare la Torah... au lait. Puisqu'on nous dit Dvash vechalav tachat leshoner, Torah tachem tamid beficha. Comme le lait et le miel est toujours sur ta langue, et bien pareil, la Torah doit être toujours dans ta bouche. Donc il y a une comparaison qui est faite dans Tehilim entre le lait et la Torah. Donc, minak de manger du lait, ça paraît sympa. Et une autre raison qui est souvent amenée, qui est. Voilà, c'est dit. Tu comprends, ils ont reçu la Torah, ils viennent de recevoir les lois de la cacheroute, ils n'ont pas encore eu le temps de cachériser tous les plats et de faire la shrita, d'apprendre les lois, tout ça, machin. Bon, donc on mange du lait. Voilà. Bon, c'est absurde, même si c'est été amené par plein de rabbins, parce qu'ils n'ont pas reçu les lois de la cacheroute à ce moment-là. Non. Comme on a dit, ils n'ont pas reçu. C'est-à-dire, donc c'est compliqué à recevoir. Maintenant, il y a une autre raison beaucoup plus profonde, mais ça, faudra venir demain soir à 23h15.
Moi j'ai entendu.
Ah bah non, je peux pas.
Moi j'ai entendu dire qu'il y a une coutume en Algérie en tout cas où les gens s'aspergent d'eau.
Parce que l'eau c'est la Torah et le maïm est la Torah. Nahon. Il y a aussi en Israël on fait ça.
Ah aussi ouais, ouais. Ah bon
ouais, les batailles d'eau. C'est Nahon.
J'ai essayé de retenir, Janine, pour te dire.
Voilà. Voilà.
Alors, c'est enregistré, on peut le trouver sur.
Quoi
Non.
Parce que là maintenant, voilà. Ça y est, c'est dans.